Eh bien bonjour à tous, nous sommes en direct sur Fréquence Paris Pluriel 106.3 et nous sommes ensemble pour l'inauguration du Festival des Solidarités 2019. Je suis Stéphane et avec moi sur ce plateau, Yves est en ma compagnie. Bonjour Yves.
Bonjour, bonjour Stéphane et bonjour tout le monde.
Et tout au long de cette émission qui va débuter maintenant et qui va durer jusqu'à 15h30 à peu près, eh bien nous allons passer en revue un ensemble d'associations qui participent, qui ont des manifestations durant cette quinzaine du Festival des Solidarités, puisque ce festival dans le 19e et ailleurs aussi, à Paris et dans toute la France, se déroule du 15 novembre, c'est-à-dire à partir d'hier, et jusqu'au 1er décembre. Eh bien donc, le Festival des Solidarités, ou Festisol pour ceux qui connaissent, vous emmène donc à la découverte de toutes les solidarités dans le 19e arrondissement. Et en premier lieu, j'accueille Emmanuel.
Bonjour.
Bonjour Emmanuel. Emmanuel qui est la porte-parole, la présidente également.
Directrice.
Directrice de l'association qui s'appelle Alternative. Alors, cette association, eh bien, elle a pas mal d'activités d'ailleurs à son portefeuille. J'ai consulté le site web, il est assez fourni. Et Emmanuel, tu vas nous décrire un petit peu ce que fait l'association, qui tu es, ce que fait l'association. Et puis, il y a un événement, une manifestation également durant cette quinzaine du Festival des Solidarités.
Exactement. Donc Alternative, c'est une association qui a été créée en 2010 et qui vise en fait à développer ou à promouvoir toutes les pratiques sociales, les usages sociaux des héritages culturels. Et en fait, nous, ça fait depuis 2014 qu'on travaille sur l'histoire de l'acquisition des objets extra-européens dans les musées avec des jeunes franciliens, donc des jeunes de Paris, 19e, 20e, 15e, 13e, mais aussi des jeunes d'Île-de-France en général, donc aussi beaucoup de jeunes qui sont du 93 et notamment de plusieurs communes d'Est Ensemble, Montreuil, Bagnolet, Romainville. Et donc on les amène en fait à s'interroger sur comment les objets extra-européens et notamment comment les objets africains sont rentrés dans les collections françaises, dans quel contexte. Et donc ça nous permet avec eux à la fois de retravailler des pans de l'histoire qui sont mal connus et qui permettent de comprendre pourquoi on en est là aujourd'hui. Et du coup, ça permet aussi d'entrer en contact avec des histoires de personnalités, des histoires douloureuses parfois, mais qui nous permettent de comprendre le contexte aujourd'hui. Voilà.
Alors, c'est un vaste sujet, bien entendu, et pas seulement en France. C'est un sujet qui est mondial. Au cours de l'histoire, les musées sont appropriés, en quelque sorte, pas mal d'objets qui font partie de l'histoire et pas forcément du pays où se trouve le musée. Alors concrètement, l'objet, il est pour lancer la discussion ou on va plus loin, on raconte des histoires personnelles et il y a des actions qui sont prises.
Alors voilà, nous, en fait, c'est vrai que quand on parle d'usages sociaux des objets, effectivement, c'est c'est des belles occasions déjà de développer des compétences, puisque ces jeunes apprennent à construire un scénario, apprennent à filmer, apprennent à prendre confiance en eux sur des questions historiques, puisqu'en fait, ils deviennent des sachants, ils deviennent des médiateurs de cette histoire, ils sont capables de la porter auprès de publics de musées, puisqu'en fait, on développe autour de séjours culturels, autour de visites, autour de soirées débats, tout un tas d'activités qui les mettent au cœur de l'action, puisqu'en fait, ils deviennent des ambassadeurs de ces histoires-là. Et donc, ça va nous amener jusqu'à l'actualité qu'on va présenter là, puisqu'ils vont maintenant jusqu'en Afrique rencontrer des jeunes qui sont aussi concernés par ces histoires d'objets.
Et alors, il y a aussi des relations entre Alternative et un certain nombre d'institutions patrimoniales, culturelles.
Alors ça, c'est une bonne question. C'est vrai que nous, quand on parle de, quand on pose la question de la façon dont les objets ont été collectés et sont rentrés dans les musées, ben il y a des musées qui sont plus ou moins aptes à écouter ce qu'on a à dire, parce qu'en fait, nous, on se base vraiment sur des archives, on se base sur des éléments historiques très forts. Et c'est parfois des histoires qu'on ne raconte pas dans les musées. Et donc, du coup, forcément, y a des musées qui n'ont pas envie d'entendre ça et qui n'ont pas envie de nous recevoir. Mais petit à petit, je pense que les choses se débloquent. On a de plus en plus de musées qui sont prêts à parler de l'histoire de leur collection. Et donc, nous, on est allés souvent dans des musées en dehors de Paris. Donc, c'était l'occasion de ces jours culturels pour aller voir des collections qui ont été des collections extra-européennes dans des musées qui acceptent justement de nous ouvrir leurs réserves et d'accepter qu'on fasse des films sur leurs objets.
Alors, la manifestation, elle s'est déroulée hier, notamment. Elle s'appelle « La restitution du projet multi-histoire » à Abomey, donc avec la ville d'Abomey qui se trouve au Bénin, en Afrique de l'Ouest, donc qui fait partie de l'histoire de France. Là, vous avez choisi ce cas concrètement parce qu'il est significatif.
Alors, c'est pas moi qui l'ai choisi, c'est effectivement des jeunes qui, dans notre association, avaient travaillé sur une performance qui s'appelait Retour sur Benin City, qui racontait comment les objets au Nigeria de Benin City ont été pillés lors de la conquête coloniale britannique. Et ont été disséminés dans toutes les musées d'Europe. Et ces jeunes-là, après avoir fait une performance qui a tourné en Allemagne, en Autriche et en France, ils se sont dit qu'il fallait aller rencontrer des jeunes qui étaient des jeunes africains. Et peut-être vous ne savez pas, mais donc depuis l'année dernière, on a eu un engagement du président de restituer 26 objets. Donc au Bénin. Après,
ça, c'est pour la France. La France s'est engagée à restituer des objets.
Voilà,
c'est une première ou ça s'est déjà produit ?
Alors, ça s'est déjà produit, mais pas encore dans un contexte aussi clairement défini, puisqu'en fait, si je reprends l'histoire, en 2016, on a une demande du gouvernement du Bénin donc de restituer tous les objets qui auraient été pris pendant la conquête coloniale. Et nous, à l'époque, on était déjà en train de travailler sur ces sujets-là. Donc forcément, les jeunes d'Alternative, ils ont été au taquet sur la réponse à donner à ça. Donc on a eu pendant 9 mois sous le gouvernement Hollande un silence total et puis un non, puisque en fait, les gens disaient que ces objets faisaient partie des collections patrimoniales et qu'on ne touche pas au domaine public, donc ce n'est pas restituable. Et puis donc, c'est vrai que l'opportunité de Macron à Ouagadougou devant un parterre d'étudiants a été pour lui de dire que de s'engager à essayer de penser la restitution du patrimoine africain à l'Afrique, puisqu'en fait 90% du patrimoine africain classique, on va dire, se trouve aujourd'hui hors d'Afrique. Et du coup, il a lancé un rapport présidentiel qui a été mené par Félouine Sarr et Bénédicte Savoie, qui sont venus nous voir, nous aussi, parce qu'on avait déjà pas mal d'actions là-dessus. Donc Bénédicte Savoie est venue nous voir à Montreuil le 6 juin 2018. Et cette mission a permis à donc conseiller de restituer tous les objets qui sont pris pendant l'époque coloniale. Mais le président Macron s'est engagé au moment de la restitution de ce rapport, donc le 27 novembre 2018, il y a un an, à restituer 26 objets. Ces 26 objets ne sont pas encore retournés au Bénin. C'est des objets qui ont été pris par le général Dodds au moment de la conquête coloniale. Mais par contre, nous, on s'est dit, on va essayer de préparer avec les Béninois le retour de ces objets, de savoir, un, de quoi il s'agit, deux, comment les gens les attendent là-bas, et qu'est-ce qui manquerait, en fait, pour accompagner ça. Voilà.
Et est-ce que tu peux nous dire un petit mot sur la façon dont ces objets ont été, on va dire, pudiquement collectés, on va dire moins pudiquement pillés, volés ?
Oui, ben c'est ce qu'on a raconté hier dans la performance qu'ils ont... Enfin, c'est ce que les jeunes ont raconté avec des jeunes béninois dans une performance qui a tourné à Abomey, Porto Novo et Ouida en octobre. Et novembre. Donc, après la conférence de Berlin en 1884-85, les empires coloniaux sont engagés à ne pas se faire la guerre sur les territoires africains, mais de se partager petit à petit, par occupation militaire, les territoires. Et c'est au moment de la conquête territoriale d'Abomey, puisqu'en fait, c'est les Français qui prennent une occasion de conflit, de traité non respecté, pour envahir et donc occuper le Dahomey, qui était un grand royaume qui avait plus de 400 ans d'existence, et donc de collecter tous les objets qu'ils ont trouvés sur le palais, donc qui appartenaient à l'époque au roi Béhanzin, donc c'est ce qu'on explique. Et donc, on parle uniquement de 26 objets, parce que c'est 26 objets que le général Dodds a ramenés à la France au moment de la conquête. Donc c'est clairement identifié comme des choses qui ont été prises dans le palais d'Ahomey, etc. Mais il y en a beaucoup d'autres. Et il y en a, on a travaillé sur aussi les autres objets qui ont été pris pendant cette période-là.
Parce qu'il faut dire quand même que le Dahomey, c'est une grande civilisation, oui, avec notamment des sculptures qui sont extraordinaires, avec donc beaucoup de portes ont été ramenées aussi.
C'est ça. Oui, alors donc nous, effectivement, dans le film et dans l'expo, on raconte effectivement beaucoup d'objets. L'histoire d'objets de cette culture qui était très riche et donc qui est encore très vivante aujourd'hui.
Alors c'est une des nombreuses activités de l'association Alternative, un projet parmi beaucoup. Donc ça, il s'agissait hier d'un film donc à propos de ce sujet. Il va repasser, on peut le revoir ce film?
Alors ce film il va être retouché parce qu'en fait il venait d'être produit, il va être retouché notamment au niveau de la traduction parce qu'il y a beaucoup de choses en fongbé qui n'étaient pas très bien traduites et il va être mis en ligne sur notre site assez vite. Et puis donc du coup une exposition qui va être vraiment installée à partir de vendredi prochain et qui va rester au moins encore une semaine ou deux au centre Matisse qui nous accueille. Voilà.
Donc rendez-vous au centre Matisse à partir de la semaine prochaine pour en savoir plus sur ce sujet qui intéresse un grand nombre de nous-mêmes et puis aussi de personnes qui vivent actuellement en France, qui sont issues de cette diaspora et qui sont également concernées. Juste une précision, si on veut en savoir plus sur l'association Alternative, on se connecte, il y a un site web évidemment.
Oui, c'est ça. Donc le site web, c'est www.alter-native.org.
Merci beaucoup, Emmanuel, pour avoir échangé avec nous.
Merci beaucoup.
Merci. Thank you.
Et nous sommes toujours en direct au bar de la Solidarité, qui se trouve au 1 rue de la Solidarité, à Paris, dans le 19e, avec Yves. Merci d'être là, Yves. Votre serviteur, Stéphane. Et puis, pour vous rappeler que ici même se trouvent également les locaux de Fréquence Paris Pluriel et de pas mal d'autres associations. Mais en attendant, nous recevons tout de suite l'association MEDAFRA. Avec, ils sont venus à trois, en force. Bonjour Aïcha.
Bonjour. Il y a aussi Pierre qui nous accompagne. Aldo qui est venu tout de Suisse.
Bonjour.
Et voilà.
Bonjour.
L'association MEDAFRA, c'est parce que c'est le Mexique danse en France.
Alors, j'allais en parler. C'est le Mexique. On va parler de Mexique. Vous êtes d'origine mexicaine.
Oui.
Et votre association met en avant la culture du Mexique. Alors, on sait bien qu'actuellement, des événements politiques se déroulent aussi au Mexique avec pas mal d'exactions dont il faut parler. Il y a d'ailleurs des émissions sur la radio qui relaye ces événements, notamment le dimanche matin de 10h à midi, l'émission Americas. Mais il y en a d'autres également. Je pense à Terremoto, dont l'animateur est chilien. Là aussi, encore beaucoup de choses à dire. Il se passe tellement de choses en Amérique du Sud, mais en Amérique centrale, au Mexique également. En tout cas, vous êtes plutôt, vous, axé sur le culturel et sur les relations entre la France et le Mexique par le côté musical, c'est bien ça?
Voilà, la musique, c'est plutôt les langages qu'on utilise pour raconter toute cette histoire, le politique, le social, et aussi pour essayer d'unir les liens entre tous les pays latino-américains. Comme tu as dit, les Chiliens, l'Argentine, la Bolivie, notamment maintenant. Il est un moment bien, bien chaud à l'Amérique latine. Et la fête des solidarités, c'est une opportunité à nous d'ouvrir cette fenêtre sur les pays latino-américains, ces conflits et sa joie aussi, la joie de vivre à travers la musique. Et voilà, on profite de l'opportunité pour vous inviter dans le cadre de la fête des solidarités à l'événement qui organise l'association MEDAFRA.
Alors, exactement, puisqu'il y a un événement qui va avoir lieu durant la quinzaine du festival. Ça se passe quand, Aïcha?
Alors, ça, c'est le 30 novembre. Ce sera dans Place des Fêtes, à le centre d'animation Place des Fêtes, 19e. Toujours, on fait part de la famille des associations du 19e. Et on vous invite à la maison, là-bas, à le centre d'animation Place des Fêtes. Début
voilà,
15h, juste à la nuit.
Alors, le Mexique, c'est un grand pays, le Mexique. Et il existe, suivant les régions, des musiques traditionnelles. Bien entendu, certains artistes sont venus jusqu'à nous. Je pense à Frida Kahlo notamment, mais elle est devenue mondialement connue, mais il y en a plein d'autres. Et donc, vous, votre activité, elle tourne autour de la musique mexicaine et plus particulièrement d'un style de musique.
Oui, la côte de Pacifique, pardon, l'Atlantique, tout au contraire, c'est le golfe du Mexique, le lieu qui nous représente. On l'appelle le son jarocho, qui est bien frais de le son cubano. Vous le connaissez.
Comment
plus
on a dit? Comment ça
son? Comme les son cubano, mais on le dit son jarocho. C'est jarocho. Juste en face de la Cuba.
Vous avez compris? Jarocho.
Jarocho.
À vous.
Et c'est tous les golfs de Mexique qui nous représentent. On a aussi Aldo qui vient de Tabasco, Pierre qui vient de la Normandie, mais elle est tombée amoureuse de la musique là-bas. Et moi-même, je suis de la ville de Mexique, la capitale, mais aussi, et on est tous unis pour cette manifestation qui est devenue un mouvement musical, qui cherche aussi à raconter toute cette histoire, non? Le social, le politique, les conflits, les joies, toute cette ambiance qu'il y a dans le Mexique et l'Amérique latine. Notamment. Cette fête qu'on va organiser à la place des fêtes, on l'appelait Mexique magique et l'Amérique latine unie. Donc c'est ouvrir aussi à les autres pays frères et sœurs qui sont là-bas.
Et alors l'écho que vous trouvez ici quand on va aller voir votre événement? Il est auprès de Mexicains qui vivent en France, mais pas seulement.
Pas seulement. Et bien sûr qu'on a une bonne famille de Mexicains qui est là. Mais une fois qu'on a commencé à diffondre la musique mexicaine, le son jarocho, tout ça, ils sont arrivés des gens de toute l'Amérique latine. Non, cet sentiment de trouver une famille, de trouver des liens. Et aussi les Françaises qui sont tombées amoureuses, comme Pierre ici, qui chante en espagnol, il danse, il fait tout ce qu'il faut pour être appelé un bon Mexicain. Et Colombien, Bolivien, Équatorien, on a trouvé tous cette musique, les son jarocho et les mouvements jaraneros. La jarana, c'est notre instrument. une façon de s'exprimer, de s'unir par, à travers la culture et la musique.
Et alors, durant cet événement, vous allez jouer, les personnes présentes vont pouvoir participer, comment ça se passe?
Bien sûr, alors depuis 14 heures, on va présenter deux collectifs de poésie latino-américains, ça c'est la poésie. Après, une exposition des peintures mexicains et argentins. Et à la fin, on va présenter ce qu'on appelle le fandango. Le fandango, c'est le rituel inclusif de la musique mexicaine, que tout le monde est convidé. C'est très solidaire parce que c'est horizontal. Tout le monde peut entrer à la scène, tout le monde peut danser, bercer, jouer. Et c'est une communion fraternelle qu'on va présenter pendant cette fête de la solidarité.
Eh bien, rendez-vous donc samedi 30 novembre, hein, c'est bien ça,
voilà.
Au centre
d'animation
Paris Anime.
Place des fêtes.
Place des fêtes pour en savoir plus sur ce pays magique qu'est le Mexique et comment participer, comment danser, comment en apprendre plus. Et vous allez voir, ça va être très intéressant. On vous retrouve tout de suite parce que vous êtes venu avec vos instruments.
Oui.
Le temps de vous sonoriser et on va écouter ce que ça donne. Voilà. En attendant, une petite pause musicale. We'll be right back. Vous êtes toujours sur Fréquence Paris Pluriel 106.3 et nous sommes en direct depuis le bar de la Solidarité, au 1 rue de la Solidarité. Vous pouvez nous rejoindre d'ailleurs parce qu'il y a pas mal de festivités qui se préparent. Et en attendant, comme nous étions à l'instant avec les personnes de l'association MEDAFRA, eh bien, dans le cadre de ces échanges culturels entre le Mexique et la France, eh bien, nous avons le plaisir de vous les présenter pour un jeu live. Ça s'appelle Fandango.
La fête de Fandango.
Bah voilà.
On vous présente les oiseaux courts.
Soy pájaro que volando.
Ay, mi güero, qué tristeza, ya me estoy enamorando. De los pies a la cabeza y tú no me diste cuándo.
Ay, mi negra, qué tristeza, ya me estoy enamorando. De los pies a la cabeza y tú no me diste cuándo.
Era mi prenda querida y yo tu pájaro cum. Arrímame de piquito y hagamos currucucú.
Eres mi prenda querida, como te lo dije ayer. Eres aquella paloma que cantó al amanecer. Soy un pobre pajarito que por el monte gorjea, que por el monte gorjea. Soy un pobre pajarito.
Soy un pobre pajarito que por el monte gorjeo, que por el monte gorjeo. Soy un pobre pajarito.
Como estoy tan chiquitito, nada en el mundo deseo. Yo gozo de lo bonito, de lo bueno y de lo feo.
Como soy un chiquitito, nada del mundo deseo, yo gozo de lo bonito, de lo malo, de lo feo.
Tírame una lima, tírame un limón, tírame la llave de mi vida, la llave de tu corazón.
Eres mi prenda querida, eres mi prenda dorada, eres aquella paloma que vuela en la madrugada. Por la floresta, pájaro que en libertad.
Soy un pajarito que vuela por la floresta, que vuela por la floresta, vuela por la libertad.
Allá te espero en la fiesta de la solidaridad, pájaro que en la floresta vuelas por la libertad.
Allá te espero en la fiesta, fiesta de solidaridad. Soy un pobre pajarito que vuela por libertad.
Arbolito, arbolito, no te me caigas, que el amor es la puerta para que entre, para que salga.
De todos los colores me gusta el verde, me gusta el verde, porque la esperanza nunca se pierde, nunca se pierde.
Que no, papá.
Voilà, le Mexique danse en France, MEDAFRA.
Bravo, bravo.
Merci. Et voilà, on vous invite à la fête des solidarités, justement, 30 novembre, place des fêtes. Aussi, on a notre atelier Fandango pour celui qui vont apprendre un peu la musique de là-bas. C'est tous les dimanches au 104. Dans les 104, les 5. Voilà.
Génial, merci beaucoup à vous en tout cas.
Allá les esperamos, fiesta de la solidaridad y alto a la represión en Latinoamérica, en Ecuador, en Bolivia, en Chile, alto a la represión.
Arrête la répression.
Y Brasil.
Et Brasil, mais bien sûr.
Merci. Et oui, vous l'avez compris.
Merci.
la lutte s'organise en Amérique du Sud. Mais les solidarités, ce ne sont pas seulement les solidarités internationales. Plus près de nous, il y a aussi pas mal de cas concrets à gérer. Et c'est pour ça que j'ai le plaisir de recevoir Gilles Jovan. Bonjour Gilles.
Salut Stéphane. Ben merci de ton accueil. Tu veux que je commence tout seul ou tu me mets en orbite ?
Non, j'arrive. Je changeais juste de micro pour pouvoir t'en donner un. Alors, les périphéries que vous parlez, ça se passe en France, ça se passe à Paris, dans le 19e arrondissement, puisque tu as la chance d'être parmi nous. Tu es là tous les jours, tu fais partie des locaux.
Bah depuis le début, depuis 2009. Voilà.
Alors, les sujets que tu traites par les périphéries que vous parlez, ils sont des sujets de sensibilisation, de prévention et d'aide également.
Oui, de mise en œuvre de dynamiques collectives. Alors, on existe depuis 1991, je ne vais pas revenir sur tout ce qu'on a fait parce que ça serait, mais sur les 4-5 dernières années, disons, on a trois grands champs d'intervention. Nous, on essaye de développer des pratiques citoyennes, des outils pédagogiques qui soient en phase avec un certain nombre de grands enjeux sociétaux auxquels on apporte nos contributions. Alors, le champ le plus important ces dernières années, on a beaucoup travaillé sur le lancement d'alerte en matière notamment de santé environnementale. Donc, vous connaissez tous le lancement d'alerte. Il y a même Radio Monte Carlo qu'on lance une tous les jours. Mais à l'époque, on travaillait là-dessus. Personne ne savait ce que c'était encore. Ils confondaient ça encore avec une discipline olympique pour certains. Et donc, le lancement d'alerte, on a fait un gros projet de rencontre nationale avec les principaux lanceuses et lanceurs d'alerte sur les questions des déchets amiantés, sur la question des nanomatériaux dans la nourriture, sur la question des perturbateurs endocriniens. Et on avait conduit ce grand cycle de rencontres au Sénat avec Marie-Christine Blandin, qui est la sénatrice, qui est la première femme politique à avoir réussi à imposer une loi qui protège le lancement d'alerte, aujourd'hui dans le privé notamment. Pour le public, c'est encore à venir. Et on a par ailleurs fait pas mal de publications, d'émissions radio sur la question. On a aussi mis au point, avec un philosophe et journaliste d'investigation, Roger Langlais, un guide pratique pour le lanceur d'alerte. C'est-à-dire que lorsque vous attaquez sur un risque sanitaire, ben vous avez fatalement des acteurs industriels en face qui ne vont pas vous laisser faire, qui ne vont pas vous laisser tranquille, qui peuvent vous faire des procès baillons, comment vous faites, quelles sont les stratégies à mettre en œuvre, quelles sont les structures juridiques à contacter, il ne faut jamais rester seul, voilà. Donc ça, c'était un grand champ de lancement d'alerte. Le deuxième champ sur lequel on travaille depuis pas mal d'années, c'est la lutte contre les discriminations. Alors là, on mène vraiment un travail de terrain. Je me souviens que la première fois qu'on a travaillé sur ces questions, c'était il y a 9 ans. On avait produit 12 heures d'émission sur FPP sur la question des violences faites aux femmes. Et là, c'était un travail d'atelier qu'on avait fait dans les quartiers à Ivry, à Ivry-Courcouronnes, à Ivry, enfin à Montreuil avec les femmes maliennes, etc., sur plein de questions. Et ensuite, chez nous, ça a amené une des piliers, comme moi, de la sauce, Federica, à réaliser une trilogie documentaire sur la question des discriminations. Et ensuite, tant on a fini ce travail, effectivement, de production et de réalisation documentaire, non seulement on s'était formé pas mal sur cette question, mais on s'est dit, mais comment on peut trouver les usages pédagogiques ? C'est bien de projeter des films en salle, c'est bien de les sortir en DVD, mais qu'est-ce qu'on en fait ? Et donc, depuis 4 ans, on a commencé à investir le terrain scolaire pour faire des formations. Donc moi, je suis formateur, on a deux autres formatrices, et on depuis 3-4 ans, Yves, il en connaît quelque chose, on est intervenu à Gentilly, en son lycée.
oui, j'ai pas dit, mais je suis animateur à FPP, mais aussi professeur documentaliste au lycée Val-de-Bièvre à Gentilly, et je témoigne, donc tu es venu au lycée, et avec Frédérica.
Voilà.
Et ce sont des interventions qui sont vachement intéressantes et qui arrivent complètement à plonger les élèves dedans.
Et en même temps, on a l'impression de faire un travail nécessaire parce qu'il est clair que les adultes comme les jeunes, d'ailleurs, sont très peu instruits sur ce que c'est que la loi qui a été créée en 2001 de lutte contre la discrimination. Je veux dire, encore moins si on rentre dans le détail des 24 critères discriminants. Et nous, ce qu'on essaye de faire, c'est à la fois de leur donner des outils théoriques. Qu'est-ce qui alimente les discriminations aujourd'hui ? Ça va être les stéréotypes et les préjugés. Sexisme, racisme, il y en a d'autres. Ils peuvent se décliner d'une manière très différente. Et en même temps, les outiller par rapport à la connaissance de leurs droits et par rapport au fait que s'ils se retrouvaient dans des situations potentiellement discriminantes, qu'est-ce qu'ils font ? Entre le tribunal civil, les prud'hommes, entre le tribunal pénal, les réparations. Et en même temps, ça nous permet aussi de balayer tout un spectre de gros enjeux sociétaux qui touchent beaucoup les jeunes aujourd'hui, notamment les inégalités salariales hommes-femmes, qui sont encore, d'après la dernière étude, de 15% en France. Qui, voilà. On n'est pas les, on n'est pas les, les moins bien lotis, hein, y a pire. Hein, mais il y a beaucoup mieux au Rwanda, en Islande, etc. etc. Et donc ce travail c'est très intéressant. Là, on travaille aussi avec des repris de justice beaucoup, mais c'est quand même, on voit plusieurs milliers de jeunes chaque année. Et donc sur des lycées, des collèges, hein, ça peut être les tout petits, les collèges, ça peut être les lycées généralistes ou les lycées comme toi à Gentilly, les lycées professionnels et techniques.
Voilà, et tu donnes des outils, vous donnez des outils qui sont tout à fait intéressants pour décrypter certains comportements qui pourraient être discriminants, qui pourraient être sexistes.
Tout à fait.
Et le public ne se rend pas forcément compte tellement ça a été intériorisé.
Tout à fait, y compris faire, par exemple, dans certains cas, on peut faire des simulations d'entretien d'embauche avec des jeunes. Donc ça les outille, c'est-à-dire les questions qu'un recruteur est censé leur poser légitimement, et puis les questions d'ordre privé qu'il n'a pas à leur poser. Mais bien évidemment, il y a beaucoup de gens aussi qui discriminent encore la société française, ne connaissant pas la loi, ils discriminent sans savoir qu'ils discriminent aussi. Donc c'est une question excessivement complexe, et je m'aperçois que 99% des gens à qui j'ai affaire ne connaissent pas la loi. Ils savent que oui, il y a des luttes, parfois il y a des procès, on parle, Marionneau a été condamné, Air France a été condamné. Mais au quotidien, comment ça se passe si ça vous arrive à vous, hein? Et là, il y a un gros travail de terrain. Malheureusement, on ne peut pas battre tout le pavé français. On est obligé de se restreindre à l'Île-de-France aujourd'hui, mais on essaye de faire un peu notre maximum là-dessus, quoi.
Alors, vous l'avez compris, les périphériques...
Et puis, il y a aussi les biens communs, je voulais intervenir là-dessus, parce que ça nous occupe beaucoup, là.
Ils sont partout. Ils sont sur tous les médias, d'abord, parce qu'aujourd'hui, on est ensemble en direct, ici, au bas de la solidarité. Mais tous les troisièmes mardis du mois, vous pouvez retrouver... sur Fréquence Pareil Pluriel, sur le 106.3 à 18h, c'est ça ?
18h à 19h, le troisième mardi de chaque mois, oui.
Les périphériques, donc, qui traitent de tous ces sujets.
Ben, principalement sur la radio, parce qu'on est cofondateur avec une quinzaine d'organisations et puis de chercheurs, aussi des juristes. Il y a aussi bien la Fondation France Liberté, Copana, la coopérative Copana, la revue Science Critique, etc., d'une université des biens communs pour faire acte de pédagogie auprès de tout public sur qu'est-ce que c'est aujourd'hui que les communs et les biens communs dont on parle tant.
C'était alors, d'ailleurs le cas
c'est
lors
les biens
de
communs
l'émission.
Mondiaux, ça voilà. Peut être les forêts qu'on sur a abordées, l'eau. On a fait une conférence, l'eau, mais ça peut être aussi les biens communs urbains, hein, donc ça va être au cœur de la prochaine campagne électorale, donc c'est intéressant de s'y pencher. Bon, je veux pas faire trop long parce que là-dessus, je peux parler longtemps, mais la prochaine rencontre, on organise un atelier débat, malheureusement, c'est pas dans le 19e, je suis désolé, c'est dans le 2e arrondissement, à Strasbourg-Saint-Denis, c'est à la Maison du Libre et des Communs. La prochaine conférence est sur le thème « L'autosuffisance alimentaire des centres urbains et périurbains devant des risques climatiques ». Et sur les enjeux d'une nouvelle révolution agricole et d'une relocalisation de l'agriculture vivrière, notamment autour des grands centres urbains. Et là, j'ai deux intervenants qui viennent, qui sont des spécialistes de l'agriculture. Quelqu'un qui est conseiller départemental de l'Aude, et puis une autre personne, un chercheur qui est à Montpellier.
Un site web pour en savoir plus ?
Là, sur FB, ouais, je vais balancer l'invite. Là. Normalement, on a le mailing.
Facebook, les périphériques.
Il y a le mailing. Vous pouvez, si vous voulez être informé, alors je vous donne l'adresse. Vous demandez des informations pour avoir le programme Université Bien Commun, tout attaché, Université Bien Commun, tout attaché, minuscule, @gmail.com. Alors, Gmail, c'est vraiment pas un bien commun, je suis désolé, mais bon, on a parfois des contradictions. Hein,
et puis aussi, si vous voulez en savoir plus sur les périphériques, Gilles, tu seras là aujourd'hui et tes bureaux ici, donc
oui.
Passez le voir, ça lui fait plaisir. Il adore quand on passe le voir à son bureau, donc n'hésitez pas. Tout au long de l'après-midi. Merci beaucoup.
Merci de ton accueil, Stéphane.
Pour avoir partagé avec nous sur les périphériques.
L'association Le Maquila est une structure culturelle, une compagnie qui a aussi une action éducative et sociale sous forme d'ateliers, interventions scolaires et sensibilisation auprès de tous les publics, basée dans le 19e arrondissement à Paris, créée en 1997. Plusieurs spectacles à son actif, un biopic autour de la vie de Billie Holiday, intitulé Billie Holiday Sunnyside, un spectacle parlant des parcours de vie des travailleurs et travailleuses du sexe qui s'appelle Arc-en-Sex Prostitution, des performances à thématique sociale, lutte contre les discriminations, engagement pour les causes féminines, une performance qui s'appelle Biopic Femmes en 7 majeures. Nous intervenons également dans le champ musical avec des artistes, chanteurs, danseurs et musiciens flamenco. Bon, c'est donc très varié, très divers. Dans le cadre du Festival des Solidarités, nous proposons une performance interactive intitulée Poetica Mundi. Ce sont des contes à tirer au sort, des contes du monde entier, avec une visée particulièrement écologique pour cette version de cette année. Nous intervenons le samedi 16 à 16h au Café Zoïde. Donc ce spectacle a un déroulement aléatoire, on ne sait pas exactement ce qui va se passer puisqu'il est construit à partir d'un jeu de cartes éphémère qui est suspendu. Et les spectateurs sont invités à rentrer avec nous, avec les comédiennes, dans la danse, dans ces contes du monde entier. Voilà.
Alors, toujours en direct, hein, depuis le bar de la Solidarité, j'accueille Abdel de l'association Paris Solidarité. Et alors là, ça va intéresser ceux qui ont des enfants et ces enfants qui vont à l'école, qui ont des devoirs à faire. Et c'est là que vous intervenez.
C'est ça. Bonjour tout le monde. Alors, oui. Alors, je suis un ancien enseignant en retraite et j'ai voulu aider une association pour les devoirs qui est juste en face aux 4 rues de la Solidarité. Et j'ai remarqué, ils m'ont dit qu'il y a beaucoup de demandes pour l'aide aux devoirs. Ils ont au moins 50 personnes en attente. Donc j'ai tenu compte de ça et j'ai créé ma propre association. Je l'ai créée, ça fait 3 mois. Je tiens une parenthèse à remercier le directeur de la CMAVAC, c'est ça ? De la CMAVAC,
de la maison des associations.
Qui m'a très bien reçu, qui m'a aidé, qui m'a orienté. C'est un monsieur qui est très gentil et je précise et je le remercie.
Ça, pour vous contacter, on fait comment ?
Pour me contacter. Alors, pour me contacter, j'ai créé un site internet. Donc, un site internet, c'est Association Paris Solidarité. Et sinon, j'ai aussi un mail. J'ai un mail, c'est parissolidarité@gmail.com.
parissolidarité@gmail.com. Tout attaché, ouais. Paris Solidarité ?
Attaché.
Tout attaché, voilà. Pour les devoirs des enfants, eh bien ça, c'est une vraie initiative. Merci beaucoup, Abdel, pour avoir partagé avec nous
cette information. Merci beaucoup et bon courage.
I and I are Rasta children. I and I are Rasta children. We come from Zion, even down here in Babylon, enduring the strife and tribulation. I and I no check for vanity, I and I are deal with humanity, enduring the strife and tribulation. It's your guidance and protection. Shooting out of Babylon to the promised land, Mount Zion, Mount Zion, Mount Zion.
Zion High is the place for I and I to dwell. Fire, 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 I go burn Babylon. Babylon, in
during the strife and tribulation. Yes, I and I no check for vanity, and I deal with humanity.
Enduring the strife and tribulation, Jah, guidance and protection.
To lead the children out of Babylon to the promised land, Mount Zion.
Et nous sommes toujours en direct hein, sur 106.3, fréquence pareil pluriel, en direct du 1 rue de la Solidarité. Et puisque c'est le Festival des Solidarités qui a commencé hier, qui dure jusqu'au 30 novembre, c'est-à-dire pendant toute la quinzaine, eh bien, j'ai le plaisir d'avoir au micro Yves, parce que Yves, tu es animateur, mais tu es aussi un des protagonistes de Réseau Éducatif Sans Frontières.
Réseau Éducation.
Éducation Sans Frontières,
RESF.
Alors, il y a bien sûr une émission sur Fréquence Paris Purel, mais tu peux nous en dire plus sur cette initiative ?
Oui, donc RESF, eh bien, c'est un réseau, ce n'est pas une association. C'est un réseau qui est un réseau qu'on retrouve un petit peu sur absolument toute la France, hein, qui s'est structuré en 2004. Et c'est un réseau donc de quand on a découvert qu'on avait des lycéens qui étaient menacés parce qu'ils n'avaient pas de papier, qui n'avaient pas de titre de séjour, et qu'on avait aussi des élèves en primaire, en maternelle ou au collège, qui étaient menacés parce que leurs parents n'avaient pas de titre de séjour. Alors, à chaque fois, on croyait que c'était quelque chose qui était isolé, sauf qu'en parlant entre nous, on s'est rendu compte que ce n'était pas du tout isolé. Quand on s'occupait d'un élève, eh bien, on se rendait compte qu'on avait 1, 2, 3, 4, un certain nombre dans tous les lycées. Donc, le réseau Éducation Sans Frontières s'est formalisé en 2004. Et donc, maintenant, ce sont... C'est une nébuleuse de collectifs locaux. Hein, et très souvent, un collectif il va se créer pour une action de solidarité. Le problème est réglé. Et les gens retournent à leurs occupations.
Alors, au jour le jour, oui, les actions sont diverses. Donc, c'est en fonction des événements que vous couvrez l'actualité ?
Oui, c'est donc en fonction des événements. Par exemple, la semaine dernière, là, je vais parler des événements dont on a beaucoup parlé dans l'émission RESF. La semaine dernière, on avait un jeune un étudiant en BTS de Saint-Ouen qui était au centre de rétention à Vincennes parce que ses papiers n'avaient pas été renouvelés. Donc, il y a une grosse mobilisation. On en a fait une émission. Il est intervenu en direct à l'antenne depuis le centre de rétention de Vincennes par téléphone. Et on a appris qu'hier soir, il avait été libéré. Mais le combat continue pour sa régularisation. Donc là, il y a les lycéens qui sont intervenus, des profs qui sont intervenus, mais aussi plein de gens de Saint-Ouen et au-delà qui sont intervenus. Là, actuellement, il y a une grosse mobilisation pour un jeune qui s'appelle Isaac, qui a 19 ans, qui est arrivé en France à 4 ans et qui devrait être expulsé demain par le préfet de l'Essonne. Donc tout ça, c'est des mobilisations qui sont en cours et ça ne s'arrête jamais. On fait aussi, et donc là, c'est l'émission RESF notamment, mais pas que, tout un travail d'information parce que c'est important de faire connaître ce qui se passe et de le comprendre. Donc il y a aussi un travail qui est fait en lien avec d'autres associations comme le GISTI, hein, le groupe d'information et de soutien aux immigrés, avec la CIMAD, avec qui voilà, donc on...
Oui, et c'est pas parce qu'on est irrégulier dans un pays qu'on n'a pas le droit à l'éducation, forcément. En tout cas, même de façon temporaire, ce sont des choses qui s'organisent.
Notre bataille, c'est justement que les gens ne soient pas irréguliers dans un pays parce que personne n'est régulier.
Bien sûr. Après, se pose la question de pouvoir régulariser tout le monde, mais ça, c'est un autre débat en attendant.
Je crois que la question ne se pose pas. Mais...
RESF, c'est tous les mercredis.
Alors, c'est tous les mercredis, donc RESF sur FPP, c'est tous les mercredis de 18h à 19h. L'émission est rediffusée le mardi matin de 7 à 8 et téléchargeable sur le site du RESF, hein, http://resf.info/radio. Et c'est aussi donc une série de permanences, enfin une quantité de permanences dans tous les quartiers, absolument partout en France, dans les quartiers, dans certains établissements scolaires. Donc il y a et pour trouver les permanences, pour joindre RESF, eh bien il est important de joindre en fait le collectif de son quartier, de son lieu d'habitation, ou le collectif de l'école ou du lycée le plus proche. Et on trouve tous les collectifs sur la colonne de gauche sur le site RESF, tous les collectifs locaux.
Donc deux points de contact, RESF, un site internet, resf.org, et puis...
resf.info. Alors, soit réseau-éducation-sans-frontières.org.
Réseau-éducation-sans-frontières.org.
Oui, soit plus simplement resf.info.
Resf.info, et puis par rapport à tout ce que l'on se dit aujourd'hui, bien entendu, vous pouvez aussi obtenir plus d'informations, des informations complémentaires, en nous écrivant à contact@rfpp.net. Merci beaucoup Yves pour avoir partagé avec nous. On fait une petite pause, on se retrouve très vite. Toujours sur FPP 106.3 au Festival des Solidarités. C'est quand même dans le 19e arrondissement une des mobilisations les plus importantes. Il faut quand même le souligner puisque ce sont 81 associations mobilisées pour l'édition 2019, mais aussi 15 lieux du 19e qui accueillent ces événements tout au cours de la quinzaine. Je vous le rappelle, nous sommes en direct depuis l'événement d'inauguration du festival qui donne donc le départ jusqu'au 1er décembre à un ensemble de manifestations. Vous pouvez retrouver l'ensemble du programme de la quinzaine en vous connectant sur mairie du 19e arrondissement à Paris, rubrique Festival des Solidarités, et là vous avez l'ensemble des manifestations. Ce sont au total environ une trentaine d'événements qui se tiennent durant la quinzaine dans l'ensemble du 19e arrondissement, mobilisé donc pour l'occasion avec 24 projets exactement pour ce festival édition 2019. Et puisque nous en sommes à vous présenter ces associations qui militent, qui s'engagent pour les solidarités internationales, mais aussi les solidarités locales, eh bien j'ai le plaisir d'accueillir Donia. Bonjour Donia.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Alors là, on va faire un petit bond dans le temps, puisque l'événement que tu nous présentes, eh bien lui, c'est un événement qui va avoir lieu pour la clôture du festival. C'est-à-dire d'ici 15 jours, le 30 novembre.
Le 29 novembre.
Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur ce que tu fais? L'association s'appelle, est dans le domaine de la mode et la musique solidaire.
Donc je suis une habitante du 19e arrondissement. Et donc j'ai voulu m'impliquer dans la vie de mon quartier avec un projet citoyen, un projet qui lutte contre l'exclusion des personnes en situation de précarité. Et donc je suis partie par rapport à mes centres d'intérêt. Et comme je m'intéresse à la mode et à la musique solidaire, je me suis dit pourquoi pas mettre en place dans mon quartier un projet de mode solidaire qui aurait pour but d'arriver à un moment donné de créer une coopérative qui impliquerait dans son fonctionnement des habitants avec à leur côté des bénévoles, et des habitants qui seront en situation de précarité pourront créer leur propre emploi d'insertion. Donc c'est un projet qui se réalise bien sûr en plusieurs étapes. Donc la première étape, on est en plein dedans, c'est-à-dire qu'on se fait connaître, on essaye d'animer des ateliers de customisation. Donc c'est des ateliers qui sont destinés à des personnes qui aiment la couture, qui s'intéressent, qui veulent partager des compétences, apprendre des nouvelles choses. Donc des ateliers de customisation. On organise également ponctuellement des collectes de vêtements. Donc avec ces collectes-là, une partie peut être dédiée à la vente. Donc
ça se déroule où? Il y en a une prévue prochainement?
Prochainement, on essaye d'en mettre une en place pour les fêtes de la fin d'année en fait. Et on va là où on peut être accueilli, parce que pour l'instant, on n'a pas de local propre. Donc, on essaie de développer notre réseau de partenariats. Donc, on a déjà réalisé des ventes solidaires dans des centres sociaux, également dans la structure ESS Les Canaux, à la terrasse des Canaux. Et pour la partie musique solidaire, on a mis en place un réseau de professionnels pour mettre en avant, valoriser les musiques urbaines, dont le reggae et le dancehall.
Et oui, il y a aussi de la musique, également un buffet kényan. Alors tout ça, alors, du Kenya, alors pourquoi en particulier le Kenya?
Alors en fait, c'est un événement qui est organisé avec la MacVac, et pour la partie, on va dire, dégustation de traiteurs, je pense que le directeur est le mieux placé pour en parler, donc ça c'est vraiment... En fait, il a réuni plusieurs associations pour vraiment créer un bel événement de clôture de la fin du Festival des Solidarités. Et nous, pour notre partie, donc, c'est d'inviter la styliste qui nous rejoint dans le projet de mode solidaire, qui s'appelle Mila Couture, qui est donc une personne qui s'intéresse à la customisation avec une particularité. Elle arrive à customiser des vêtements qu'elle récupère avec du wax, du madras et des tissus rasta.
Du wax?
Oui.
Qu'est-ce que c'est le wax?
C'est un tissu en fait traditionnel africain. Donc madras également. Et pour Lorasta, c'est parce qu'elle aime beaucoup la musique reggae, comme moi. Donc là, pour cet événement-là, c'est vraiment pour la mettre en avant et pour l'encourager à nous rejoindre dans notre projet de mode solidaire pour programmer prochainement, là où on pourrait être accueilli, des ateliers de customisation.
Alors, je vois un défilé de mode upcycling. Ça veut dire quoi exactement?
Alors, notre association Coop Mode Solidaire, c'est une association de recyclage de vêtements. Donc, c'est-à-dire qu'on prend des vêtements déjà utilisés, qu'on récupère, soit directement auprès de notre entourage ou soit lorsqu'on fait des collectes de vêtements. et qu'on leur donne une nouvelle vie, en fait, avec des stylistes qui ont beaucoup de créativité et qui peuvent faire des super belles choses.
Alors, si vous avez envie d'en savoir plus, eh bien, il y aura donc un défilé de ces vêtements, donc portés par un certain nombre de modèles.
Oui, voilà.
Que vous avez déjà...
On est en train de les mobiliser. Ce n'est pas facile, voilà. Parce que c'est porter des vêtements, c'est s'exposer. Donc, on est en train de les mobiliser. Et il y aura également une animation musicale avec un jeune artiste qui s'appelle Kékété Titibi. Kékété Titibi.
Et tout ça se déroule donc le 29 novembre à la MACVAC, c'est la Maison des Associations du 19e arrondissement. On salue Olivier qui est là avec nous aujourd'hui, bien entendu, puisque cette maison abrite un certain nombre d'événements qui auront lieu tout au long de la quinzaine, et dont cet événement de clôture qui intégrera le défilé de mode que tu viens de nous présenter. Merci beaucoup, Donia, pour avoir présenté cette manifestation.
Novembre, le froid s'installe. Samedi 16 novembre, l'Éternel Solidaire inaugure le Festival des Solidarités du 19e arrondissement et vous ouvre ses portes. Au programme, rencontre avec les associations de la rue, ateliers ludiques, dégustation de produits bio, émissions radio en direct, vin chaud et crêpes. Rendez-vous samedi au 1 rue de la Solidarité, de 14h à 18h. Toutes les infos sur la page Facebook Éternel Solidaire.
Et oui, nous sommes toujours ensemble au Festival des Solidarités, et en particulier au bar de la Solidarité. Et ce lieu, eh bien, c'est un lieu particulièrement solidaire, puisqu'il accueille tout un tas d'événements tout au long de l'année. Alors ici, c'est le festival qui dure pendant les 15 jours, mais il y a beaucoup d'autres événements qui se déroulent ici. Et j'accueille Emmanuel Saunier, qui est le directeur de ce tiers-lieu, puisque c'est comme ça qu'on appelle cet endroit, et aussi le responsable de l'association des Deux Ailes. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus, Emmanuel, sur l'ensemble de ces événements, et puis ce lieu un peu hors du commun, au cœur du 19e arrondissement, dans un quartier populaire?
Bonjour. D'une part, on est quand même très très heureux d'accueillir cet événement ici. Le lieu ici s'appelle l'Éternel Solidaire, et on est rue de la Solidarité au 1. Et pour nous, c'est un moment important de mettre en œuvre des dynamiques de temps de rencontre. Aujourd'hui, l'Éternel Solidaire, c'est ce qu'on appelle un tiers-lieu. C'est à la fois un lieu où on a ce qu'on appelle un lieu de vie, donc un bar. Dans le bar, on accueille beaucoup d'activités. En journée, on fait de la médiation numérique. En soirée, on fait des événements alors qu'ils sont très très larges, autour des solidarités, de différentes formes de solidarité. Donc par là, on entend à la fois le côté humain, avec l'accompagnement des gens dans l'emploi, mais avec aussi l'accompagnement des jeunes dans la scolarité. Mais on entend aussi le côté écologique, donc avec tout un volet d'action autour du développement durable, d'initiation. Donc c'est vrai qu'on a un poulailler, mine de rien, une poule.
Il faut marquer le coup quand même.
Il faut marquer le coup.
Il y a trois poules actuellement.
Il y a trois poules. Une poule, c'est 190 kg de déchets par an. Donc trois poules, ça fait quasiment 500 kg de déchets par an qui sont consommés par les poules. Et en face de ça, on a des œufs.
Et comme tu le disais, il y a des événements quasi toutes les semaines qui se déroulent ici.
Alors, principalement les mercredis et jeudis. L'idée pour nous, en fait, c'est quand même de permettre d'avoir des lieux de sortie avec des tarifs plutôt bas dans les quartiers populaires, plutôt que de bouger au centre de Paris, d'aller à Oberkampf, etc., etc. Voilà, ici, on fait toute une cohérence d'activités. Alors, par exemple, on a une épicerie solidaire, une épicerie avec une association qui s'appelle VRAC.
Oui, d'ailleurs, on peut en dire un mot. Il y a une dégustation qui est prévue tout à l'heure.
Il y a une dégustation qui est prévue en cours de produits VRAC. Donc l'idée, c'est d'avoir...
Il est encore temps pour vous qui nous écoutez de vous rendre au 1 rue de la Solidarité. Ça va commencer d'ici une petite heure. Hein.
Voilà, c'est urgent de venir, effectivement. Ce sont des produits qui sont à la fois issus de circuits courts et d'agriculture biologique et qui sont proposés à des prix très intéressants dans la mesure où, justement, c'est du VRAC. Donc on est sur la réduction d'emballage et on est en même temps sur une baisse des coûts liée à la réduction des emballages.
Alors les projets pour ce lieu, ce tiers-lieu, c'est d'accueillir plus d'événements dans l'avenir ou d'opérer, d'avoir des ambitions très précises dans des domaines particuliers ?
Alors, en fait, au tiers-lieu, on a effectivement le bar, mais il n'y a pas que le bar. Il y a aussi toute une partie de local où on accueille des associations, ou d'ailleurs des structures de l'économie sociale et solidaire, qui sont sur des dynamiques, on va dire, de solidarité territoriale. Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est d'avoir des projets, d'accueillir des projets qui sont en lien avec l'économie locale, en lien avec les solidarités locales. Donc aussi bien, par exemple, que ça soit FPP, qui est chez nous depuis longtemps, et qui Fréquence Paris Pluriel, sur qui je parle aujourd'hui, et FPP met en place des actions durables avec des publics qui n'ont jamais la parole. Mais on a aussi le studio Tartare qui, d'un côté, a une vocation, on travaille sur des questions de business, en tout cas qui sont pour elle du graphisme, et qui, à côté, mettre en place des événements, des temps d'accompagnement avec des jeunes mineurs isolés, et leur font réaliser des bandes dessinées pour mieux raconter leurs histoires. Donc c'est ça qui nous intéresse. Aujourd'hui, on a 8 structures comme ça qu'on accueille, et le but du jeu, c'est aussi qu'elles puissent profiter de la dynamique et du lieu pour pouvoir créer leurs propres événements.
Avec notamment un atelier numérique qui se déroule en occurrence régulière ici au Bar de la Solidarité. C'est 2 fois par semaine, je crois.
Alors l'atelier numérique, c'est 3 fois par semaine.
3 fois par semaine.
3 fois par semaine. Et ça se décompose, donc ça se pousse dans la journée, les mercredis, jeudi et vendredi. Et ça se décompose à la fois par, d'un côté, de la mise à disposition d'ordinateurs, de connexions Wi-Fi, de l'autre, de l'accompagnement, et puis un troisième volet qui va être donc de l'accompagnement dans l'usage des logiciels, et puis un troisième volet qui va être sur rendez-vous, par contre, et qui nous permet d'accompagner des personnes dans leurs difficultés de relation avec l'administration, notamment les retraites, hein, tout ce qui se passe par Internet aujourd'hui, et qui n'est pas forcément aussi évident que ça. On parle de 25% de la population française qui est quand même très exclue de la révolution, entre guillemets, parce qu'on n'est plus vraiment sur une révolution, on est même sur une régression, mais en tout cas du passage au numérique.
Alors c'est ça l'ADN de ce lieu, c'est de créer justement des passerelles, beaucoup d'interférences, de collaboration entre les associations. D'ailleurs, aujourd'hui, dans le bar de la solidarité, où se déroulent les ateliers numériques, comme tu y faisais référence à l'instant, il y a aujourd'hui une imprimante 3D. Je crois que c'est un partenariat avec Fractal Design, c'est ça ?
Alors, c'est Fractal System qui, effectivement, Fractal commercialise en fait des ordinateurs reconditionnés. Et du coup met aussi en place des actions de médiation numérique très techniques autour de dispositifs comme ça, comme l'impression 3D ou comme l'auto-réparation.
Alors pour en savoir plus, on se dirige vers le site internet. Il y en a plusieurs.
D2L-insertion.fr et puis éternel solidaire en un seul mot.fr également.
Avec en plus tout un tas d'informations qui sont véhiculées sur les réseaux sociaux, mais ça...
Et les pages Facebook, éternel solidaire et D2L, bien sûr.
Vous saurez les trouver. On se retrouve dans un petit moment. Merci beaucoup, Emmanuel, pour
avoir
partagé avec
nous. C'est moi, avec joie.
It's been a long time since I'm rocking. It's been a long time since I did this road. Let me get back, let me get back, baby, where I come from. It's been a long time, it's been a long time, it's been a long, lonely, 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 lonely time. It's been a long time since the book of love.
so walk in the moonlight, making balls that just couldn't work right. Open your arms, open your arms, open your arms, and baby, let my love come running, come running, come running, come running. It's been a long time, it's been a long time, it's been a long, lonely, 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 lonely time, time, yeah, yeah, lonely time, lonely time, lonely time, baby, lonely time, lonely time, lonely time.
Eh bien, vous nous rejoignez juste à temps si vous venez de prendre l'antenne. Nous sommes en direct sur Fréquence Paris Pluriel, sur 106.3 en FM à Paris. Et vous pouvez également écouter l'intégralité de la grille des programmes sur www.rfpp.net. Et oui, parce que sur Radio Fréquence Paris Pluriel, il y a tout un tas d'émissions sur la culture, sur les initiatives sociales et puis sur les musiques alternatives. Mais pour l'instant, place aux réjouissances, puisque je suis avec Aline de l'association VRAC. Bonjour Aline.
Bonjour Stéphane.
Et c'est un bon moment puisque cette association, eh bien, elle vend un certain nombre de produits. Aline va nous l'expliquer. Et puis il y a tout à l'heure, enfin à partir de très très bientôt, c'est déjà installé, une dégustation qui va avoir lieu.
Exactement.
Alors, c'est quoi l'association VRAC ?
Alors, l'association VRAC, déjà VRAC, c'est l'acronyme de Vers un réseau d'achat commun. C'est une association qui existe maintenant depuis presque 6 ans à Lyon, qui a essaimé à Strasbourg et à Bordeaux, et depuis quelques mois qui s'implante à Paris. Alors, l'idée de VRAC, elle est bicéphale, elle est née d'une réflexion d'un bailleur qui travaillait avec la Fondation Abbé Pierre en se disant, mais finalement, qu'est-ce que ça veut dire habiter ? Est-ce que c'est seulement offrir 4 murs et un toit aux personnes ? Mais qu'est-ce qu'on fait pour les personnes qui ne peuvent pas aller vers la culture, qui ne peuvent pas se soigner ou qui ne peuvent pas se nourrir correctement ? Et au même moment, dans un restaurant coopératif, un monsieur qui s'appelle Boris Tavernier se disait « Mais c'est fou, on a beau cuisiner du bio à pas cher et du local, et malheureusement, les personnes qui ont peu de liberté économique n'arrivent pas jusqu'à nous. Qu'est-ce qu'on fait ?» Donc ils se sont rencontrés et ils se sont dit « On va sillonner les quartiers de Villeurbanne et on va essayer de réfléchir avec les habitants. » Et cette idée est née de se dire « Mais peut-être que si on faisait nos courses ensemble, si on achetait ensemble, eh ben, on pourrait acheter de meilleurs produits pour moins cher. » Et ça a commencé comme ça, avec un sac à dos, une paire de baskets, aller dans les quartiers de Villeurbanne et à proposer quelques produits, de la farine, de l'huile d'olive. Et des petits groupements d'achats ont commencé à se faire, co-gérés par les habitants. Et 6 ans après, bah voilà, il y a près de plus de 1500 adhérents, 13 groupements, la moitié sont autonomes. Et puis nous sommes les 4e. Donc notre but, en gros, c'est de lutter contre les inégalités d'accès à la consommation de qualité. Et de travailler avec les habitants pour montrer que bah, voilà, on peut habiter un quartier populaire et pourtant bien s'alimenter et surtout s'auto-organiser.
Oui, parce que l'association VRAC a pour but d'aller au-devant des habitants. C'est pour ça que les implantations se sont réalisées particulièrement dans ces quartiers où il y a besoin d'avoir non seulement un besoin identifié de mieux s'alimenter, mais comment faire avec des bons produits, eh bien, en les vendant justement en vrac pour pouvoir les offrir à un prix très très intéressant par rapport à celui du marché.
Oui, exactement. Donc chaque vrac est soutenu par historiquement par un bailleur social et d'autres acteurs. Nous, on a la chance d'être soutenu par Paris Habitat et la ville de Paris. Et c'est vrai qu'on a une attention très particulière pour les personnes vivant en logement social. Nos leviers économiques, ben, c'est l'achat groupé, l'achat en grande quantité pour jouer sur les francos de port, d'acheter en direct auprès auprès des producteurs, donc en limitant les intermédiaires, et de proposer en vrac tout ce qui peut être proposé en vrac pour limiter les surcoûts liés aux emballages et aussi pour des raisons écologiques assez évidentes.
Et oui, alors pour ceux qui en doutaient encore, pour acheter chez vrac, il faut arriver, venir, alors il faut adhérer bien sûr, mais il faut venir avec ses récipients.
Oui, il faut venir avec ses contenants. Donc ça, on le redit. Ce qui est chouette vraiment dans le projet de vrac, c'est qu'en fait, quand on sillonne les quartiers, on n'est pas là pour réinventer l'eau chaude. Il y a déjà des acteurs en présence, des associations et des différents acteurs qui font extrêmement bien leur travail. Donc notre principe, c'est de bosser main dans la main avec ces professionnels-là. Donc ici, on a la chance de travailler avec l'équipe notamment de D2L. Bah, toi, Stéphane, tu es adhérent à VRAC aussi. Et voilà, on est des Bernard Lhermitte. Donc, une fois par mois, on prend nos marques une demi-journée et on transforme cette salle en épicerie éphémère avec l'aide des habitants, qui sont aussi les bénévoles du projet. Et on accueille les adhérents qui viennent retirer leur commande, qui s'est fait une quinzaine de jours avant, donc soit par mail, soit en venant ici, où des jeunes gens peuvent les aider à formuler leur commande. Donc on vient à VRAC avec ses bouteilles, ses tupperwares, ses sachets, en tissu, si possible. Voilà.
Et oui. Alors, vous n'entendez pas à l'antenne parce que c'est une personne du public qui nous interpelle sur le problème du tri. Mais avant de trier, on en est encore à la consommation. Et justement, en réutilisant les contenants, c'est ce que nous expliquait Aline, pour éviter du gaspillage et notamment pour éviter ces suremballages terrifiants quand on revient du supermarché. Enfin, il y en a partout. C'est ça qu'il faut éviter aujourd'hui. C'est un des enjeux.
C'est un des enjeux majeurs, qui soient économiques ou écologiques, et des nouvelles habitudes à prendre. Nous, ce qu'on constate quand on va à la rencontre des habitants, souvent, c'est on dit « Ah mais oui, mais en fait, c'est comme on faisait dans le temps, ou c'est comme on faisait dans le pays dont mes parents sont originaires. » Finalement, acheter en vrac, on s'y fait assez vite.
Et oui, c'est un retour dans le temps tellement agréable. Alors, tu l'as dit, en deux temps, une partie commande et ensuite on vient récupérer sa commande. Ça se passe une fois par mois. Alors ici, au 1 rue de la Solidarité, on a de la chance puisque tu viens avec tous tes produits une fois par mois donc. Mais il y a aussi d'autres centres qui existent dans la capitale et en région parisienne.
Oui, on est au début du projet. Hein. On est beaucoup sollicité, ce qui nous fait plaisir parce que ça veut dire que les habitants nous attendent et on est très heureux de ça. On a lancé un groupement donc dans le 19e, dans le 13e et ce mois-ci, on lance un premier groupement dans le 12e. Et en début d'année prochaine, on sera dans le 14e, le 20e et le 18e arrondissement.
Eh bien, bravo pour cette belle initiative. Pour s'inscrire, pour en savoir plus, il y a un site web.
Oui, il y a un site web qui gagnera vraiment à être toiletté, mais avec Léa, ma collègue, nous nous y attellerons très très bientôt. Donc, vous trouverez les infos. Et vous pouvez nous écrire un mail à paris@vrac-asso.org. Mais j'imagine que on pourra redonner ces informations-là en fin d'émission également.
Le site web s'appelle pour accéder. C'est VRAC.
Oui, c'est tout simplement VRAC. Vous tapez Association VRAC, vous tombez sur le site web et ensuite vous avez une page par ville.
Eh bien voilà, vous savez tout. Merci beaucoup Aline.
Merci
pour avoir
à
partagé
toi.
Avec nous sur VRAC. Et bien cette émission en direct exceptionnelle hein, pour l'inauguration du Festival des Solidarités 2019 s'achève maintenant et c'était un plaisir de pouvoir échanger avec l' ensemble de ces acteurs de l'arrondissement, mais aussi avec des ambitions qui dépassent largement ce 19e. Merci à tous. Et puis, on se retrouve pour une prochaine manifestation. Pour en savoir plus sur le festival dans son intégralité, je vous rappelle que vous pouvez vous connecter sur le site de la mairie du 19e à la rubrique Festival des Solidarités du 19e arrondissement. Quant à nous, eh bien, on continue la grille des programmes de fréquence Paris Pluriel. Et on se retrouve très bientôt. Ciao, à bientôt.